Bonjour, vous écoutez Résonance, l'émission d'information d'Univers 99.9. Pour cette émission, nous allons à Rennes rencontrer Rebecca Baudrier. Elle est architecte et experte dans l'usage de la terre comme matériau de construction. Elle va nous expliquer comment et pourquoi s'est-elle intéressée à la terre comme matériau, quelles en sont les qualités et l'intérêt dans une perspective de développement durable, quelles sont les différentes techniques et in fine, quel type d'habitation est-ce que cela donne. C'est tout de suite dans Résonance. Vous écoutez Univers 99.9. Je suis avec Rebecca Baudrier, qui est architecte et spécialisée dans la construction de bâtiments et de logements en terre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est venu cet intérêt pour la construction en terre crue, d'ailleurs ?
Bon, je crois que je me suis intéressée à la construction en terre assez tôt, parce que je viens du milieu agricole, donc j'avais déjà les mains dedans quand j'étais toute petite. Mmh. Et ensuite, c'est venu aussi du fait que je me suis mise aussi à la sculpture. C'est parti de la matière. Ensuite, il y a eu la question du paysage, parce qu'à l'époque, j'étudiais à Paris. Quand je faisais le trajet Paris-Rennes et que je pouvais observer le paysage, je me rendais compte qu'il y avait un petit problème de teinte, de couleur, de rapport au sol. Et c'est par là que je me suis intéressée aussi de plus en plus à la manière de transformer la matière première en matériaux de construction. Donc là, l'architecture reflet du sol. Voilà. Et donc à partir de là, j'ai continué dans le domaine de l'architecture parce que je m'intéressais à ce matériau-là, plus précisément, et à ce qu'il pouvait avoir d'intérêt au niveau thermique, aussi bien thermique qu'esthétique, mais aussi environnementale, puisque la terre elle se situe à portée de main, en tout cas dans le bassin de Rennes, et dans beaucoup de régions en France et dans le monde, et que l'on peut en faire un matériau sans être obligé de consommer énormément d'énergie, et également lié au transport. Voilà, ça évoque le circuit court, un respect du sol et du paysage. C'est un patrimoine géologique que l'on a là et qui peut sans arrêt être retourné à la terre et être réemployé. Donc c'était ça un peu l'intérêt de la construction en terre et ce qui m'a permis de m'y plonger un peu plus, un peu plus quoi. Donc du coup après j'ai continué ces études-là en architecture en essayant de rencontrer des architectes et des artisans qui travaillaient le matériau et ça n'a pas été évident, parce que même en école d'architecture, on ne nous apprenait pas justement à utiliser ce type de matériaux, puisqu'on était plus branché sur le béton, l'acier, le verre. Et donc, tous ceux qui pouvaient s'intéresser à ces matériaux-là étaient un peu comme des ayatollahs, dont j'ai dû faire partie à l'époque. En l'occurrence, aujourd'hui, je m'aperçois que ça a bien changé et que c'est une porte ouverte et j'espère que ça va continuer.
Ces techniques de construction avec ce matériau ont traversé les siècles et sont des constructions qui existent depuis très très longtemps.
Oui, tout à fait. On a plusieurs siècles derrière nous avec honnêtement le regard. On a un recul sur la construction en terre aujourd'hui, avant les années 1950 et... On a également, on peut aujourd'hui avoir le recul de ce qu'on a pu construire il y a 25-30 ans, également en terre. Et donc, on doit retravailler sur l'architecture des anciens, ce qu'ils nous ont apporté pour pouvoir utiliser le matériau de manière logique et puis saine aujourd'hui, quoi.
Alors, dans la région ici, en Bretagne, il y a beaucoup de constructions en terre.
On en a... sur tout l'ensemble du territoire. Enfin, en tout cas, dans le centre-ville de Rennes, on est plus marqué par tout ce qui est l'architecture à pans de bois, qui est un système d'ossature bois, mais avec un replissage de terre et de fibres, alors qu'autour de Rennes, on est directement avec un mélange de terre et de fibres, qu'on appelle la bauge, fibre animale comme végétale, Après, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plusieurs techniques de mise en œuvre, enfin, par rapport à la quantité de pierres qui étaient en place, la quantité de terre, la nature de la terre. En tout cas, on retrouve un patrimoine tout autour de Rennes, dans le bassin de Rennes, assez important. Et la plus ancienne, elle date, qui a été recensée, en plus ancienne maison, hein, 1708. Il y en a probablement de plus anciennes. Voilà.
Quelle est la particularité de ce matériau? Est-ce que vous pourriez nous expliquer aussi les différentes techniques? Vous en parliez à l'instant. Quelle est la particularité?
Alors, la particularité du matériau est qu'il se trouve déjà à proximité. Donc, en fonction des terres, on a en France, en tout cas, on distingue plusieurs techniques. Ici, dans le bassin de Rennes, on a une terre qui est plutôt grasse, qui est plutôt très argileuse, très fine. Donc, les anciens ont utilisé la bauge parce que avec un mélange de fibres, on pouvait armer le mélange et ça permettait de construire des murs monolithes directement, même sans banches. C'était une architecture de façonnage, quoi. On retrouve cette technique-là, la bauge, partout dans le monde, hein, avec justement des techniques différentes. Enfin, ici, on avait tendance à élever ça à la fourche, mais en Afrique, on peut utiliser aussi, en Afrique ou en France, hein, on peut utiliser d'autres modes de mise en œuvre. Mais ça dépend vraiment de la nature de la terre, quoi. Et alors que dans le sud de la France, on a plutôt une terre qui est sableuse, auquel cas, là, on va plus se rapprocher d'une technique de compactage. Donc là, cette technique-là, c'est le pisé. On le retrouve plus dans le sud de la France. C'est pareil, on le retrouve partout dans le monde, quoi. On la retrouve partout dans le monde, donc c'est plus une technique aussi de compactage et liée à des banches. Voilà, donc ensuite, il y a l'adobe, qui est plus proche de la brique dans ses dimensions et qui peut être une technique de briques donc l'on fait sur place et puis que l'on transporte, enfin voilà, donc il y a vraiment, les techniques sont vraiment liées à la nature du sol. Et après, c'est aujourd'hui, on arrive dans une période de mécanisation, donc on va penser à déplacer ces matériaux qui seraient produits de manière toujours locale, mais pour minimiser les délais de séchage, enfin réduire les délais de séchage. Réduire le temps de mise en œuvre, la mécanisation est intéressante. Après, elle n'est pas forcément adaptée à tous les chantiers non plus.
Dans un contexte de préoccupation écologique, environnementale, en quoi ce matériau est-il justement à même de répondre à la nécessité de réduire la dépense énergétique, de réduire aussi les circuits de distribution et de production. Quel est l'intérêt de ce matériau dans les préoccupations environnementales qui sont les nôtres aujourd'hui?
Alors, dans les préoccupations environnementales, principalement, déjà, bon, c'est un matériau local et qui pourrait être mis en œuvre toujours localement, qui ne nécessite pas de transport ni de consommation d'énergie lors de la fabrication. Déjà, ça, c'est une base qui est assez énorme. Et c'est aussi mettre en avant et valoriser le savoir-faire, quoi. Et ça fait aussi partie des valeurs actuelles, enfin, qui sont recherchées. On met en valeur une matière première, mais aussi des savoir-faire locaux, voilà. Et c'est ce que moi je défends à travers ce type de l'emploi du matériau. Il y a surtout un patrimoine immatériel qui est aussi important que l'architecture et le matériau en lui-même, quoi.
Alors, dans votre connaissance de ces constructions, vous avez rencontré des personnes qui vivent dans des habitations en terre. Quels sont les retours? Quels témoignages est-ce qu'ils peuvent vous donner de ces logements?
Alors, parmi les personnes rencontrées, justement, sur qui habitent dans des maisons en terre, il y a eu des retours, on va dire, très positifs, puisque il y a un confort, on parle de niveau de confort, qui est intéressant, parce que la terre accumule la chaleur en hiver et voilà, et la restitue. En termes de déphasage, on appelle ça déphasage, la durée d'accumulation de la chaleur et du temps de restitution. Et donc, les gens m'ont plutôt parlé d'un niveau de confort qu'ils ne retrouvaient pas dans d'autres types de constructions. Construction conventionnelle, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'en hiver, c'est un confort qui est assez enveloppant, quoi. Et en été, il fait frais. Donc, en temps de canicule, la fraîcheur aujourd'hui, c'est quand même une qualité, quelque chose de très important. Parce que la terre aussi peut accumuler l'humidité et la restituer. Donc, c'est-à-dire qu'en été, on a toujours cette fraîcheur-là dans les murs aussi. Et le mur de terre crée une barrière physique à toutes les variations de température extérieure. Ce qui fait que à l'intérieur, que ce soit en hiver, en été, on a une sensation de confort qui est proche de ce qu'on a comme même nous-mêmes l'épiderme, quoi. Les murs de terre fonctionnent comme un épiderme.
D'un point de vue esthétique, vous parliez tout à l'heure de cette dimension-là. Quand vous étiez en train, vous pouviez voir le paysage, etc. Qu'est-ce qui vous touche aussi? Qu'est-ce qui vous émeut dans ce matériau?
Qu'est-ce qui me touche dans ce matériau? C'est sans doute c'est tout ce qui peut véhiculer, que ce soit à travers ses teintes, mais... la lumière, enfin, je veux dire, c'est chaud, c'est pas... Il y a des nuances, et rien que ces nuances-là, je trouve que, voilà, regarder un enduit terre, moi, ça me fait un peu voyager, voilà.
Rebecca Baudrier, merci. Voilà, c'était Résonance sur les ondes d'Univers 99.9. Si vous voulez retrouver toutes les informations, c'est sur le site www.radio-univers.com. Salut!
Cabeça mulher e prosa.